Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. À nouveau, donc, dans nos lectures en liberté, je vous propose de terminer la semaine en lisant ce soir et demain soir un petit texte de Jean-Bernard Puy intitulé « Le bar parfait ». Il s'agit de l'errance d'un personnage dans les rues de Paris qui se promène donc de bistrot en estaminet pour chercher ce qu'il appelle le bar parfait. Donc voici « Le bar parfait » de Jean-Bernard Puy. Un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Muscadet ou Sauvignon? Au revoir, monsieur. Et je suis sorti du rad. Faut pas pousser. Il y a toujours quand même au moins du Mâcon, du Petit Chablis, du Cheverny ou du Quincy, en cherchant bien. Suffit d'aller chez un Nicolas. Ce n'est jamais très loin sur notre territoire, notre beau Pinarland. Celui que tout le monde nous envie, celui que tout le monde copie, putain, même au Chili, ils font du blanc. Faut pas pousser. C'est Prévert qui disait « Le vin est un liquide rouge, sauf le matin où il est blanc. » Si ce n'est pas de la sourate ultime, cette évidence, c'est quoi? Du muscadet, du sauvignon, merde. J'en avais marre. Vers 11h, il me faut mon verre de blanc. Du bon, de la marque, du naturel, du cru, du millésime, du bio, je m'en fous, du blanc, simplement du bon blanc. De quoi attendre, humecter, le repas de midi. C'est mieux qu'un apéro, c'est une mise en bouche. Une vieille habitude qui nettoie les plombages et hérisse un peu la langue. Un machin qui décape le moins sucré possible. Le vin blanc moelleux, c'est une horreur. Autant prendre du Doliprane avec. Après, au cours de la journée, je pouvais varier, tenter des mélanges. Je ne suis pas vraiment un alcoolique, je suis un ivrogne. Prévert, toujours. Ça fait un bon moment que je pratique. Pendant longtemps, j'ai cru qu'arpenter les trottoirs en essayant tous les bistrots était une sorte de quête sans fin, un plaisir sans baisse de régime, une étude sans conclusion, une thèse sans publication, mais avec une soutenance de tous les instants. Eh bien non, ça fatigue en fait, tout simplement. Je me suis à force convaincu que boire, c'est épuisant. Souvent décevant, quelquefois pénible. Mais ça reste d'abord un désir. Le désir de boire. De s'en envoyer un derrière la cravate. De baigner les dents du fond. De mouiller la meule. Plus qu'un besoin ou une nécessité. Le foie n'est pas une réalité. C'est un empêcheur de tourner en rond. Boire ne se résume pas à avaler du liquide. Ça consiste à parler avec le buveur d'à côté. Ne pas être dérangé par un barman problématique, avoir chaud. Sentir l'ivresse s'installer tranquillement. Ne pas devenir sourdingue à cause de la musique. Pouvoir lire en paix. Et compter sur de la bonne bibine. C'est quand même pas la mer à boire, merde. J'en avais assez d'arpenter Paris pour rhabiller les gamins. Il était temps de trouver, pas trop loin de chez moi, un bistrot où il y avait le choix, une sorte de bar parfait. le bistrot total, le troquet favori, celui qui est fait pour vous, celui dont vous êtes presque le seul à reconnaître les mérites. Faire le même travail harassant que James Crumley qui, à Missoula, dans le Montana, déclarait l'avoir cherché longtemps. Pour la bière et le whisky, il l'a trouvé. Ce n'était pas le bar le plus rutilant. De l'extérieur, il ne payait pas de mine, mais il y était alors revenu pour le reste de sa vie, à peine une éternité. Il y était dans la ouate. Ou alors suivre l'exemple de Bukowski, qui n'y croyait pas au bar parfait, puisque tous les rats se valaient, du moment qu'on puisse vomir tranquille à l'extérieur et insulter les barmèdes. Paris, c'est pas un bled comme Missoula. Il y a 2 millions de bars de plus que dans ce trou lointain. J'avais 3 ou 4 jours devant moi. Les RTT, ça a du bon. Et puis, profiter de cet acquis social pour se beurrer, c'était d'un chic. Ma femme s'était barrée, ça faisait 2 ans. Un drame, un vrai drame. Un événement qui tue à coup sûr la moitié de la population et remplit les débits de boissons. À pleurer pendant des jours et des jours. À griffer le papier peint et casser la vaisselle. Mais un bonheur. Un vrai bonheur. Faut avouer, personne en rentrant pour te lancer. D'où tu viens? On peut savoir, t'as bu? Vas-y, souffle. T'as vu ton haleine? J'en ai marre. Je vais pas vivre avec un alcoolique. Dans quel bar t'étais? Et avec qui? Une pute sûrement. C'est toi qui as payé, comme d'habitude. Tu penses un peu à la famille? Non, mais bien sûr, monsieur ne pense qu'à lui. Mais t'as quoi dans le crâne? Je vais te le dire, ce que t'as. Du pinard! Il n'y a plus rien d'autre. J'en ai marre. Mais je ne savais pas pourquoi aujourd'hui je ne le sentais pas. C'était un mauvais jour. J'ai ce genre d'intuition chevillée au corps. C'est comme une odeur métallique ou bien quelque chose qui gratte dans la pliure du coude. C'est con et absurde comme impression, mais je savais, par habitude, qu'il valait mieux dans ces cas-là rester au pieu, bouquiner tranquille et attendre des jours meilleurs, c'est-à-dire le lendemain. Il y a 2 mois, pareil. Je ne le sentais pas, ce petit jour gris et morne. Vers 11 heures, je suis quand même sorti en me persuadant qu'un ballon de mercuret allait changer la teneur du paysage. Dans une des petites rues en face de chez moi, il y avait des travaux, mais pas de pancarte interdisant le passage. Je me suis pris 25 kilos de béton mou déboulant direct du 5e étage. Ambiance Tex-Avery, coup du lapin, dents et lunettes cassées. J'ai appelé un ami à l'aide et je l'ai attendu pour qu'il m'accompagne aux urgences et m'assiste, les radios et tout le tintouin. En patientant, en guettant son pas lourd dans l'escalier, je me suis tapé 2 verres de Centenay, histoire de me remettre l'esprit en place. À Saint-Antoine, ils m'ont fait les premières analyses, dont une prise de sang, et m'ont rassuré. Rien de cassé, pas d'écrasement de vertèbres, le rachis impec, rien. Simplement, un des médecins a confié à mon pote en loose dé et avec un mauvais sourire que j'avais un taux d'alcoolémie anormal dans le sang. 2 petits verres de rouge et hop, tu deviens un affabulateur et un salaud qui creuse le trou de la sécu. Mon ami, lui aussi, se demande toujours. Je suis quand même rentré dans un balto un peu plus loin, bar tabac, tenu par des Chinois. Les Chinois tiennent tous les bars tabac, tirage et grattage rapido BFM du 11e. Une nouvelle dynastie impériale, la dynastie Zinc. Un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Là, on ne me propose rien. On me sert, c'est tout. Du chardonnay, de base. La bouteille avec un bouchon plastique, putain. Je paye, je bois pas, je sors. Boulevard de Belleville. 2 types, devant leur bagnole, portières grandes ouvertes, en viennent aux mains. C'est impressionnant, mais ça cogne bien moins que ça hurle. Tant pis pour eux. Ce qu'ils devraient faire, ces primates, c'est un constat tranquille autour d'un bon verre. C'est juste en face. Des gens regardent sans intervenir, espérant un bon match de boxe gratos. Pour une fois que c'est pas à la télé. Sale ambiance. Boulevard de Belleville, fini. terminé. Vaut mieux tout de suite que je m'achète une bonne boutanche et que je me la cogne tranquille à la maison. Ça me reviendra moins cher et au moins j'aurai de la qualité. Mais boire ce premier petit verre essentiel tout seul chez moi, avec les odeurs de chaussettes et la vaisselle à faire, c'est atroce comme perspective. Personne pour raconter des trucs extraordinaires, juste à côté, au comptoir. Des trucs extraordinaires ou des trucs très très cons. Quand l'oreille est attirée, attentive, le gosier est en meilleure pente. On déguste, on a le temps, on boit moins vite, on écoute, on découvre, on apprend, on vit. L'autre jour, deux peintres en bâtiment s'empaillaient sur le sport. Normal, on était un lundi. Le lundi, il n'y a pas de match, que les résultats. Mais là, c'était la lutte entre le foot et le hand, d'une sorte de débat qui n'avait pas lieu d'être. C'est comme comparer un gros plan et une vendange tardive. Ça a viré vinaigre jusqu'au moment où l'un des deux prolos a lancé son mot d'ordre imparable. N'importe comment, le handball, c'est le football des cul-de-jattes. Carrément. L'autre ne pouvait plus répondre. Quand ça arrive à ce niveau, vaut mieux se taire, sinon c'est la dérive. Alors il a arrêté le combat. Mais tu me fais chier.com, il a dit, en mordant dans sa tartine. La conversation venait de se terminer brutalement, dans la modernité. Et mon petit Macon n'en était que plus abrasif. La vraie vie. Ma journée était sauvée. Bon, c'est vrai, dans la plupart des rades, faut se farcir les propos sur la baballe. Et ça, il n'y a pas que le lundi, c'est tous les jours de la semaine. Et aussi la politique et tous les biturins qui se verraient bien Premier ministre ou en attendant secrétaire d'État du verre à pied. Les yakas et les faudrés. Faut avouer que ça reste dans le général, et assez rarement sans le FN. Ce genre de propos, les vannes fachos, assez peu de soi-disant courageux, ont le culot de les lancer en public à voix haute. On ne sait jamais. Ou alors, faut aller dans les troquets spécialisés, mais ceux-là, je ne les connais pas. Les seuls jours où l'on entend autre chose que des considérations vachardes sur notre chef d'État, c'est 3 ou 4 fois par an quand les catastrophes météo attaquent à fond notre beau pays tempéré. Mais bordel, qu'est-ce qui fait chaud vivement l'hiver? Ah, ça caille la vache, ça caille vivement le mois d'août. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus que des chocs thermiques. Il détraque tout, même le thermomètre. Va savoir comment t'habiller avec ce bordel. Les variations caniculaires ou frigorifiques, en tout cas, ça ne change pas la température de mon verre de pouilly fuissé qui ne doit être ni glacé ni tiède. Quand il fait chaud, ça me désaltère. Quand il fait glagla, ça me réchauffe. Ne pas oublier les bistrots où les habitués sont des marrants. Combien de fois ai-je entendu le type commander au garçon « Une halter, s'il vous plaît, ou non, plutôt deux !»« Comment ça, une halter, monsieur ?»« Ben oui, boire des halters. Mais faut se méfier de la flotte, car l'obus éclate. Ha ha, ces vannes, on les oublie vite. Ainsi, on peut les réentendre à date fixe, en s'étonnant toujours. Celles dont on se souvient sortent de l'ordinaire. Un jour, un biturin bien avancé m'a confié que le général de Gaulle était un grand moraliste. Il a dit qu'il y avait deux catégories de Français. Ceux qui pensent qu'il y a deux catégories de Français et les autres.
Le temps de finir la bouteille, j'aurais rallumé un soleil, j'aurais réchauffé une étoile. J'aurais reprisé une voile. J'aurais arraché des bras maigres de leur destin 1000 enfants nègres. En moins de 2, j'aurais repeint en bleu le cœur de la putain. J'aurais renfanté mes parents. J'aurais peint l'avenir moins grand et fait la vieillesse moins vieille. Le temps de finir la bouteille. Le temps de finir la bouteille. J'aurais touché la double paye. J'aurais acheté un cerf-volant pour mieux t'envoler mon enfant. Un lit doux et un abat-jour pour mieux l'éteindre mon amour. Dans une heure, un litre environ, j'aurai des lauriers sur le front. Je serai champion, j'aurai cassé la grande gueule du passé. Ce sera enfin demain la veille, le temps de finir la bouteille. Le temps de finir la boutanche. Et vendredi sera dimanche. J'aurai planté des îles neuves sur les vagues de la mer veuve. J'aurai dilué la lumière dans la perfusion de grand-mère. J'aurai agrandi la maison pour y loger tes illusions. J'aurai trouvé du pain qui rime avec des pièces d'un centime. Rire et pleurer, ça sera pareil. Le temps de finir la bouteille. Le temps de finir la bouteille. Et chiche que la poule essaye de voler plus haut qu'un gerfaut. Chiche que le vrai devient le faux. Que j'abolis le noir, le blanc. La prochaine guerre est celle d'avant. Les adjudants de syndicats, la soutane des avocats, les carrés bleus du tout Paris, le dernier né du dernier cri, la force, le sang et le zèle, le temps de tuer la bouteille. Le temps de tuer la bouteille.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Voilà, et donc retour au bar parfait de Jean-Bernard Puy après cette pause musicale. Dans le bar parfait, le zinc doit être net et pas trop encombré. La musique en sourdine. Et le serveur ne doit pas te prendre le chou. Il ne faut pas se faire servir juste en face de l'évier à cause du bruit claquant et pénible que font les soucoupes à café en s'entassant. Des coups à vous ruiner les tympans. De la place que l'on a choisie, il ne faut pas pouvoir regarder une quelconque télé, ça distrait et ça empêche de détailler toutes ces petites choses qui font qu'un bar peut concourir à la perfection. Les cartes postales punaisées au-dessous des verres, celles avec un gros derrière bronzé ou un palmier clinquant, les petites affichettes imprimées, crédit est mort, n'engueulez pas le patron, sa femme s'en charge, si tu fais crédit, tu perds un ami, un breton sans beurre, c'est un breton qui meurt, un verre de vin par jour, c'est de la santé pour toujours, ici le sourire est gratuit, etc. Tous ces conseils cyniques et profondément passéistes qui correspondent souvent à la tronche bourrue du limonadier et quelquefois à son cul. Depuis quelques années, ces injonctions sont petit à petit remplacées par des avertissements lénifiants, pus de la gueule, du genre « à consommer avec modération »,« bœuf de provenance européenne », »,« ici un loto gagnant de 200 000 euros », et l'annonce de plus en plus répandue que les toilettes sont réservées aux consommateurs. Dans un bar parfait, on ne te donne pas une petite pièce grisâtre pour pouvoir aller pisser. Un bar total doit en permanence avoir en son sein un gus qui va crier en tapant sur le zinc bah, « Je me descendrai bien une petite côte !»« Allez, un dernier pour la route !» Ou bien « Celui-là, je le paie !» La tradition, ça fait rigoler même quand on n'en a pas envie. Comme moi aujourd'hui, ce dont j'ai envie, c'est tout simplement d'un clair verre de vin blanc. Dans un bistrot de rêve, il y a forcément le Parisien. On attend souvent que le salaud qui l'a déjà dans les mains le lâche enfin. On le parcourt alors d'un œil distrait en trouvant toujours que c'est un vrai torchon. Et qu'ils ont beau faire des efforts, tant qu'on peut lire gratos, ça a une grande chance d'être nul. Mais le Parisien a du souci à se faire. Les journaux gratuits, forcément sales et à moitié déchirés, tendent à le remplacer sur le zinc et le plus souvent par terre. Dans un bar parfait, on ne doit jamais entendre le patron engueuler un serveur ou le tamoul en cuisine. Ça la fout mal. En plus, on a envie de s'en mêler. Et si on ne le fait pas, après, on a honte et ça vous bousille la journée. Un bar n'est pas une entreprise. C'est un refuge, une étape, hors du temps quotidien. On ne doit pas trop y percevoir le réel. Le réel, c'est fait pour être rêvé. Dans un bar parfait, mais là c'est fini, il est bien qu'il y ait sur le comptoir des œufs durs, dans le petit présentoir surmonté d'une salière, de ces œufs un peu vieillots, qui, quand on leur brise la coquille en les tapant direct sur le zinc, montent un peu de gris et de vert. Bref, tout ça, toutes ces considérations, ça ne me donnait pas mon verre de blanc. Il commençait à faire vraiment soif et l'heure arrivait vite où le blanc se devait de devenir aussi rouge que le sang du peuple. Sur le boulevard, une brocante improvisée, la bif de base, beaucoup de vieilles fringues entassées par terre, quelques objets disparates et abîmés, des vendeurs et des acheteurs, tout aussi dépareillés, tournant autour du dérisoire magot. Un pauvre jeu de Monopoly dévasté. Et tout à coup, l'idée. Le Monopoly. Pourquoi pas ? Un guide pour tenter de le dénicher, le bar ultime, par le biais. Plus qu'un guide, un itinéraire. J'ai ouvert la boîte. Le plateau y était toujours, en mauvais état certes, mais il était là. Je l'ai acheté, 2 €. J'ai vérifié immédiatement ce dont je me souvenais. Le boulevard de Belleville était bien la première case du jeu, la moins chère, et surtout de nos jours, comme quoi rien ne change, la plus pauvre. La deuxième, rue Le Courbe. J'ai compté les cases, celles qui ont des noms d'artères, de rues, d'avenues, de boulevards, sans oublier les 4 gares, des noms 100 fois convoités, 26, comme le nombre éternel des lettres de l'alphabet. Tiens donc. Un sacré jeu de piste. Ce tracé de capitalisme immobilier allait devenir un jeu de lois bourrées, alcoolisées. Enfin, la revanche. Ne plus posséder de maison ou ne plus construire d'hôtel sur ces cases, simplement trouver un bistrot, c'était tout à coup plus humain. J'avais le temps, j'avais un but et des destinations. J'ai gardé le plateau écorné et j'ai jeté le reste dans une poubelle. Peut-être qu'un clodo, en la fouillant, croirait avoir mis la main sur une fortune en bifton, une seconde, pas plus. Tant pis, j'attendrai un peu pour la bibine. J'ai pris le métro direction rive gauche, passé dans un autre territoire. Une terre quasi inconnue, traversé la Seine comme si c'était l'Aquéron. Un type s'est cru malin de sauter le portillon à toute vitesse. Il s'est vautré en se prenant le bout du pied dans la barre métallique. Il a dû se faire mal. Il est resté par terre un long moment en grimaçant, se frottant le genou. Tout autour de lui, les gens passaient en rigolant à moitié. Pas question de plaindre un fraudeur. La rue Le Courbe, je le savais déjà, était très longue. Une des plus longues de Paris. Suffisamment pour avoir donc, sur ses bordures, un paquet conséquent de troquets de licence 4 datant de l'époque où l'on marchait beaucoup à pied, où il fallait souvent s'arrêter pour boire ou pour pisser. On s'étonne du nombre de bars à Paris, mais il faut relativiser. Le moindre village français, disons de 1000 habitants, en a au moins 2, toujours rivaux. Ça fidélise la clientèle et maintient la pression. Dans la capitale et ses environs, 10 millions de personnes, ça donnerait 20 000 troquets, je ne sais pas, mais à vue de gosier, on doit quand même être loin du compte. En sortant du métro, j'ai remonté la rue sur une centaine de mètres et je suis entré dans un bar au nom branchouille, un genre de jeu de mots vaseux. C'est la mode. En tout cas, un blaze à ne pas avoir que du sauvignon ou du muscadet, sinon c'est pas la peine de se creuser le ciboulot. Le genre de rade où il y a à présent une ardoise vantant des petits crus peu connus, tout ça pour dire que le patron a des copains en région et qu'il ne se contente pas d'aller à métro. Un bistrot où le barman ne rechigne pas à manier le tire-bouchon et vous montre l'étiquette avec fierté. Ils avaient du Saint-Pourçain blanc. Va pour le Saint-Pourçain blanc. Je l'ai avalé d'un coup, cul sec, en pente humide. Je l'avais trop attendu. Coup de fouet. J'en ai commandé aussi sec un deuxième. Comme c'était l'heure de l'apéro, ils m'ont amené une assiette de cacahuètes, toujours pareille, de ces cacahuètes qu'ils sortent d'un gros seau de plastique blanc dégueulasse avec les mains dans « cacahuètes, il y a caca ». Un bar parfait propose au moins quelques rondelles de saucisson ou des lamelles d'émentales, même si c'est de la dentelle. Bon, le vin me réchauffait. Mais ce bouic me sortait par les trous de nez. À côté de moi, au comptoir, il y avait un type qui éclusait sa 16 en pianotant névrotiquement sur un PC portable. Avant de me calter, j'ai eu envie de tester ce qu'il avait dans le ventre, ce banquier en goguette. Alors, la bourse, ça monte ? Bon, la bourse, je m'en fous. C'était juste pour dire. Et je me suis tu. Le type m'a détaillé du coin de l'œil en me calculant. Il a dû se convaincre petit à petit que je n'étais apparemment pas le chieur de base, juste un lambda voulant entamer une petite et polie conversation. Alors, il a fait un petit effort. « Je vérifie les dernières courbes du chômage. » C'est pas pareil, mais là, c'est sûr, ça monte. Ce que je peux vous dire, c'est que le libéralisme a encore un stock de suppositoires à écouler. » Causant le mec, tout à coup. Ça devait être ses derniers moments de paix avant le bureau, avant des réunions parmi les plus chiantes de sa vie. Alors je me suis lancé. Fallait lui donner des biscuits. Suppositoire. Ah ben ça c'est marrant, tiens. Vous savez ce que disait Raffarin ? Allez-y. En politique, il y a des suppositoires qu'il faut savoir avaler. Le type m'a fixé sans bien comprendre. Vous êtes sûr qu'il a dit ça ? Bon. Comment poursuivre cette discussion inopinée ? En convainquant le mecton que ce n'est pas le sens de l'humour qui l'étouffe. Mauvaise adresse. Mon bar parfait n'est pas là. Troisième étape. Direction la gare Montparnasse, pas très loin. Le vin blanc me chauffe déjà les veines. Rade et raide, ça va ensemble. Un seul vrai troquet dans la gare, du côté du quai numéro 1. Toute une humanité angoissée en valise à roulettes, soit plantée sous le panneau, le nez en l'air, attendant les 20 minutes fatidiques avant le départ du dur, l'heure à laquelle il est formé, cette vacherie de train. Soit cavalant vers les quais en se foutant les valoches grinçantes dans les genoux et en engueulant les gosses. Je ne reviendrai pas de sitôt dans ce bal des pantins. En plus, le vin blanc, il est sorti directo d'un cubi planqué dans le frigo. Je n'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était. Les barmen de gare sont des rapides. J'en ai bu une gorgée, dégueulasse. Du sulfite liquide, amer. Je l'ai laissé sur le comptoir. Un type à côté de moi, la moustache jaunie par la clope, a remarqué mon découragement et m'a demandé timidement s'il pouvait se le taper. Si vous n'en voulez plus, bien sûr, juste pour ne pas que ça se termine dans l'évier. Si vous avez le courage. Mais faites gaffe. C'est du débouche-lavabo, ce truc. Eh ben, ça me débouchera. Merci. Les cubis envahissent le monde. À croire que c'est trop compliqué d'ouvrir une bouteille et de manier un De Gaulle. Mais quand on a des gros doigts, bon courage pour sortir le bitonio qui sert de robinet. Pendant un court moment, je me suis demandé si je n'allais pas prendre un train pour ailleurs, n'importe où, pour vaincre le signe indien, aller me torcher du côté de Granville, par exemple, face à la mer déchaînée, et revenir le lendemain. qui serait peut-être un bon jour, pourquoi pas un jour de chance. En tout cas, pas un jour comme aujourd'hui sur lequel pèse quelque chose qui ressemble à de la mauvaise conscience. J'ai pas résisté. J'étais idiot. J'avais maintenant une mission, fallait en profiter. C'est à moi de la rendre faste, cette drôle de journée. J'ai laissé quelques pièces sur le zinc et avant de quitter la gare, j'ai acheté Ouest France, section Loudéac-Rostronin, pour avoir des nouvelles des collègues. Des fois, c'est un type cuit comme une vache qui arrache des molaires à sa femme, aussi aligné que lui, à la pince multiple, tout ça pour ne pas payer le dentiste. Vaut mieux garder le pognon pour acheter du lambic. Bonne pioche, un fait divers qui fait plaisir. Un automobiliste à 2 grammes a renversé un piéton à 2,5 grammes. Qui était en tort? Mystère. L'un déclare qu'il était sur la route et l'autre sur le trottoir. Bravo. En sortant de la gare, j'ai croisé un père ou un beau-père, va savoir, qui tout à coup a balancé une mandale à sa petite fille hurlante. Sale ambiance. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc cette lecture du Bar Parfait de Jean-Bernard Puy que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.